bulletin d'information. Au Burkina Faso, les domiciles du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et ancien chef de la rébellion ivoirienne soutenue par le Burkina Faso a été perquisitionné à Ouagadougou dans le cadre de l'enquête sur le putsch raté du 7 septembre. La justice burkinabé mène une enquête tous azimuts sur le putsch et mais aussi sur l'assassinat du président Thomas Sankara, assassinat dont le 28e anniversaire a été commémoré hier. Le directeur de la justice militaire du Burkina, le colonel Sita Sangaré, a déclaré aujourd'hui que le président déchu, Blaise Compaoré, était également dans les murs dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Le général Diendéré, le chef de file du putsch manqué, a quant à lui été inculpé des crimes contre l'humanité par la justice militaire. Toujours au Burkina, un proche du président du Burkina Faso, Alain Jean-Claude Zagré, un officier, a été nommé aujourd'hui sur décret présidentiel ministre délégué de la sécurité. Il remplace à ses postes un colonel accusé d'être impliqué dans les putsch ratés du 17 septembre. Kinshasa et Pretoria veulent accélérer les projets des barrages Inga. La RDC et l'Afrique du Sud ont réaffirmé aujourd'hui à Kinshasa leur volonté d'accélérer les projets d'extension de barrages hydroélectriques d'Inga sur le fleuve Congo qui pourrait fournir du courant à l'Afrique entière. Le président congolais Joseph Kabila et son homologue sud-africain Jacob Zuma se sont entretenus dans la capitale congolaise et ont salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du traité sur les projets Grand Inga conclu en 2013 selon les communiqués finaux de leur rencontre. Kinshasa travaille actuellement à la première étape vers la réalisation de ses rêves Inga 3, basse chute qui doit permettre à la RDC de produire 4800 mégawatts supplémentaires en gestation depuis plus de 10 ans. Inga 3, d'un coût total estimé à 12 milliards de dollars, a été ressuscité en 2013 par la promesse faite par l'Afrique du Sud d'acheter plus de la moitié de la production de l'électricité du futur barrage, soit 2500 mégawatts, assurant ainsi une viabilité financière au projet.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, un officier a été condamné pour avoir laissé Boko Haram piller une caserne. Le général de brigade Enita Rason Kouti a été condamné hier par une cour martiale pour perte de matériel pendant l'attaque des Baga dans l'état de Borno en janvier. Lors de cette attaque, les troupes nigérianes avaient abandonné une caserne dont les armes avaient été pillées par les insurgés islamistes. L'officier, un neveu du célèbre chanteur d'Afrobeat, Fela Kuti, a également été reconnu coupable du manquement à ses devoirs alors que le troisième chef d'accusation, Lâcheté, a été abandonné, a déclaré l'avocat Femi Fala à l'AFP. La France va octroyer environ 300 millions d'euros supplémentaires d'aide au Mali, notamment pour le développement du nord du pays, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta sera la semaine prochaine à Paris, selon des sources diplomatiques françaises. On va annoncer environ 300 millions d'euros jusqu'en 2017, dont une partie substantielle pour le nord, où l'ex-rébellion à dominante Touareg et les groupes armés pro-gouvernementaux viennent de sceller la paix, a déclaré une de ses sources. Pas d'assouplissement des lois d'indigénisation au Zimbabwe, a déclaré le ministre qui a les dossiers en main. Fait donc de cette session d'information. Restez à l'écoute de la Voix de l'Amérique, mais aussi rendez-vous sur notre site internet VOA Afrique et Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir, chères auditrices, bonsoir, chers auditeurs. Heureux de vous retrouver dans cette émission, votre antenne libre, émission interactive. Nous continuons à parler de la Guinée. En Guinée, le président Alpha Condé s'acheminait ce vendredi vers une réélection au premier tour de la présidentielle, déjà récusée par l'opposition qui crie plutôt à la fraude et prévoit de la contester par tous les moyens autorisés, y compris les manifestations. La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme inquiètent du risque de violence post-électorale fréquente en Guinée, exhortent les candidats à régler leurs litiges devant les tribunaux et non dans la rue. Selon les résultats provisoires partiels proclamés ces deux derniers jours par la Commission électorale nationale indépendante, Alpha Condé obtenait 1,95 million de voix, soit 60% des suffrages exprimés sur plus des trois quarts des électeurs inscrits. C'est demain que la CENI va annoncer solennellement les résultats issus de ce scrutin. Comment maintenant sortir de la crise? C'est la grande question qui se pose dans cette émission. Et nous avons en ligne depuis Conakry, Maxime Koivugi, qui est représentant de la CENI. Maxime, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci encore une
fois. Bonsoir, éditeur de VOA Amérique. Moi, je suis en Afrique.
Merci, on vous écoute partout. Youssouf Camara, il est du comité exécutif du parti de Selou d'Alain Diallo. Bonsoir Camara.
Allô?
Allô?
Oui, bonsoir, comment ça va?
Ça va très bien, bienvenue à cette émission.
Merci, ça fait plaisir.
Mm-hmm. Nous sommes également en ligne avec Sekou Nana Sila, secrétaire administratif du bureau de la jeunesse et du RPG Arc-en-Ciel de Lambayi. C'est le parti de Alpha Condé. Monsieur Sila, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à nos valeureux auditeurs.
Voilà, vous êtes en compagnie d'Eric Manirakiza ici à Washington, depuis le studio 10 de La Voix de l'Amérique. Georges Léonard Sagnon à la cabine technique et Lopez, notre ingénieur de son. Voilà, nous allons commencer à la première question avec Youssouf Camara. Camara, est-ce que demain vous allez participer à cet événement où la CENI va annoncer solennellement les résultats?
Oh, merci monsieur. Merci à l'ensemble des auditeurs de la Voix de l'Amérique. C'est avec plaisir d'être avec vous sur ce plateau pour parler des questions d'actualité liées au processus électoral. En ce qui concerne l'annonce de la CENI pour demain, nous estimons que c'est un non-événement. À partir du moment que nous sommes retirés du processus, compte tenu de ces nombreuses irrégularités que nous avons fait remonter conformément au code électoral en vigueur dans notre pays, nous estimons que ce qui se passe, c'est la première dans l'histoire politique de la Guinée que nous connaissons une mascarade électorale de telles envergures où dans les fiefs du pouvoir, nous n'avions qu'à faire avec des robots qui sont formatés où on a 99% de votants et pas de bulletin nul, pas de déchets ce jour-là et pas de personne qui n'a pas reçu sa carte d'électeur. Donc, avec tout ce que nous avons constaté sur le terrain en ce qui concerne les taux de suffrage exprimés dans les fiefs de l'opposition et dans ceux du pouvoir, nous avons constaté qu'il y a de graves irrégularités parce que quand je vous donne le taux de suffrage exprimé dans tous les fiefs de l'opposition, c'est à moins de 35% à 40%. Quand on vous dit 700 personnes, 700 inscrits, on vous dira finalement c'est 300 votants. On vous dit bulletin nul, pas moins de 30 ou 40. Mais qu'on vous dise où sont partis les autres cartes d'électeurs appartenant à ces militants, appartenant à l'opposition. Mais quand on me fait croire, l'autre fois on a pris
Monsieur Camara,
un district de Kérouané, je vais aller au bout de mes idées, où on dit c'est 7 011 votants dans ce district-là. Ils n'ont donné que 11 personnes à l'opposition. Les 7000 personnes ont tellement très bien voté qu'ils ont tous voté en faveur du professeur Alpha Condé. Donc, ce que nous assistons dans ce pays, c'est une mascarade électorale qui a marqué l'histoire des mascarades électorales des élections à travers le monde. Et je crois que la Guinée, qui est un pays d'exception, a obtenu aussi ce médaille d'élections frauduleuses.
Monsieur Camara, oui, Monsieur Camara, essayons d'être brefs pour pouvoir donner la chance aux autres d'exprimer aussi leurs avis. Mais où est-ce que vous étiez? Est-ce que vous n'avez pas des observateurs dans ces bureaux de vote? Est-ce que vous avez des preuves matérielles pour prouver vos allégations?
Nous avons plein de preuves matérielles. D'abord, quand vous prenez la localité de Kouroussa, de Sigiring, de Baro, nos délégués ont été violentés à la veille, frappés. Il y a eu des blessés parmi eux. Il y a eu des personnes qui ont été hospitalisées. Et ceux qui sont restés de rigueur en place étaient menacés de mort. C'est-à-dire, tu t'assois, tu te tais, ou bien c'est ta vie qui en dépend. Donc, à la veille même, parce que moi, je faisais partie de l'équipe de déploiement des délégués à l'intérieur du pays. À la veille, on a reçu des appels. On était même obligé que les délégués qui n'étaient pas rentrés à leur lieu de vote, comme à leur bureau de surveillance, compte tenu de la violence, compte tenu des agressions que subissent ceux qui sont en place, eux, nous préférons, au nom de leur sécurité, qu'ils rebroussent chemin. Et c'est ce qui fut fait, et ce n'est pas une première. C'est que les zones du pouvoir sont réputées violentes. Vous avez vu l'affaire dans l'eau empoisonnée à la veille des élections de 2010, où nos militants ont été chassés de leur terre. Ils ne connaissent que cette partie de la Guinée, Sigiring Kouroussa. Ils ont été humiliés, frappés. Et même notre responsable fédéral du côté de Sigiring à l'époque a été égorgé. Ce que je vous dis sous les antennes, nous n'avions pas vu une telle barbarie que nous continuons à voir. Moi, je crois que si nous sommes dans un état de droit, il faut qu'on respecte l'opinion des autres. On ne peut pas user de la violence pour intimider les gens jusqu'à ôter leur vie parce qu'ils doivent surveiller un processus électoral.
Monsieur Camara,
c'est la raison pour laquelle nous nous retirons catégoriquement. Nous estimons que quand il va à une compétition électorale, la légalité, l'égalité des chances et la liberté physique, l'intégrité physique des adversaires doivent être assurés. Mais ce qui se passe dans cette partie de la Guinée, ce n'est ni une première, c'est devenu une habitude. Parce que
Monsieur Camara,
l'affaire du RPG, c'est une religion en Haute-Guinée.
Oui, Monsieur Camara, merci de votre commentaire. Nous nous retournons vers Maxime Koyivougui. Maxime, est-ce que ce retrait du processus a-t-il des conséquences juridiques sur la suite?
Bon, je pense que en Guinée, je suis d'abord outré et je m'incline pieusement à l'intention de M. Camara et des nombreux auditeurs de VOA devant la mémoire de tous nos frères, de tous nos, je peux dire même dans notre langage traditionnel, nos parents qui meurent dans ce processus de démocratie. Je m'incline pieusement devant leur mémoire parce qu'il n'en vaut pas du tout la peine. Il n'en vaut pas la peine de perdre une seule âme, de perdre une seule personne. Et ce que je constate, je vois que la Guinée, dans ce domaine, progresse. M. Camara l'a dit, en faisant de l'amalgame entre 2015 et 2010 et 2013. Et si on constate ce qui s'est passé en 2013, en 2010 d'abord, où il n'y avait aucun candidat qui était au pouvoir. Et puis en 2013 et en 2015, on voit que du point de vue de la recherche de la paix, du calme, de la quiétude, de la sérénité dans les élections, la Guinée se retrouve. La Guinée, si elle cherchait davantage en 2010, maintenant elle ne se cherche plus beaucoup. Elle se retrouve, je dirais, dans le pas à pas pour construire une démocratie paisible. Conséquences juridiques. Du retrait. Je pense que, en tant que commissaire à la CENI,
je n'apporte pas de jugement particulier pour cette prise de position de la part des deux partis politiques, UFDG et UFR. Ce que je sais tout simplement, c'est qu'il est beaucoup plus matériel aujourd'hui, matérialiste d'ailleurs, de faire, comme vous l'avez dit tantôt à M. Camara, d'aller vers la construction de la transparence des élections, d'aller vers la quiétude et de laisser l'histoire se construire par la succession des intelligences des fils du pays, comme ça se fait partout dans le monde. Depuis que les guerres se sont passées, il y a eu beaucoup de regrets à la suite des guerres, à la suite des tensions, à la suite des conflits. Donc juridiquement, il me semble que la Cour elle-même constitutionnelle sera saisie, bien sûr, de cette question et elle pourra trancher avec les résultats qui lui seront transmis et en ayant vérifié, puisqu'elle-même a déployé des superviseurs le jour du vote. Elle ne s'est pas contentée d'aller dans les salles de totalisation ou de centralisation qu'on appelle les CACV. Elle s'est déployée sur le terrain en tant que superviseur pour aller dans les bureaux de vote et dans toutes les préfectures de la Guinée, de toutes les régions de la Guinée. La Cour constitutionnelle s'est déployée pour faire ses constats de la manière dont les élections se sont déroulées de bureau de vote en bureau de vote. Donc j'ai une conviction que la loi sera dite, j'ai une conviction que chacun sera rétabli dans ses droits. La CENI elle-même, elle a choisi de conduire cette année, et c'est un exemple en réalité, même si quelquefois on n'a pas fini encore de faire notre éducation civique en matière de démocratie pour l'acceptation des réalités en face de nous et de construire dans l'avenir ce qui peut être bâti politiquement. Mais la CENI, elle a choisi de faire une élection équitable, juste. Et je crois que même dans les taxis de Conakry, c'est ce qui se chante aujourd'hui. C'est ce qui se dit de bouche à oreille. Et comprenez combien sont dans toutes les régions taximans à Conakry. Veillez-en, faire peut-être un micro baladeur dans les taxis. Vous entendrez ce qui se dit autour de cette élection du point de vue de son avancée dans le domaine de la transparence et de l'équité entre les candidats ici en terre guinéenne.
Monsieur Maxime, dans mon introduction, je parlais justement des tendances. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que j'ai dit ou y a-t-il eu des changements entre-temps?
Alors, en tant que commissaire, je ne peux pas travailler sous les pronostics. Ça, je le sais au domaine des journalistes et peut-être même les politiciens. Heureusement, vous avez ce que j'appelle les grandes sensibilités politiques. J'en avais voulu comme ça dans les bureaux de vote pour que le parti qui est au pouvoir, qui demande le suffrage au peuple de lui renouveler son mandat, ainsi que les partis qui sont à la conquête, soit présent dans les bureaux de vote, ce que nous avons défendu. Certains ont traduit ça en mouvance présidentielle, il n'y en avait plus. Nous avons dit équilibrons la visibilité, l'autocontrôle dans les bureaux de vote. Vous l'avez fait dans votre studio VOA. Je laisse M. Camara et je laisse M. Silla. Je ne sais pas, je vois bien le tenu.
Oui, c'est lui-même.
Voilà, bien. Voilà, je les laisse tous les deux de pronostiquer. Quant à nous autres, nous donnerons les résultats. Nous le faisons maintenant presque, il ne nous reste plus que New York et Ratoma pour la proclamation partielle. Demain, nous pourrons le faire ou cette nuit. Nous attendons les résultats de Ratoma seulement sur l'ensemble des 38, des 57 circonscriptions électorales, intérieures comme extérieures. Il ne nous reste plus que deux. Nous avons déjà fait 55. Alors nous, c'est une proclamation, ce que le peuple a décidé. Je ne peux pas parler de pronostics, je vous en prie.
Est-ce vrai que la compilation se faisait manuellement?
Oui, parce que cela fait partie de notre petite marche. La plupart des politiques n'ont pas confiance au système informatique ou électronique. Vous en savez mieux que moi, d'ailleurs M. Camara pourrait revenir là-dessus. Combien de morts on a eu sur l'histoire de Waymark en pensant que le système informatique de la révision du fichier donne automatiquement des résultats. Et comme la Guinée avait pris l'habitude pendant les années passées de fabriquer des résultats avant le scrutin, alors on pense que l'informatique et l'électronique aideraient un candidat à avoir un pourcentage qui s'ajouterait à chaque fois qu'on calculerait par ce système son suffrage à lui. Et donc, il y a très peu de confiance dans l'informatique.
certain effort d'éducation civique, je ne sais plus, technologique, qu'il faut faire vis-à-vis des politiques. En attendant, nous faisons patiemment au manuel, mais je crois que cette année, nous sommes grandement dans les délais, puisqu'il ne nous reste plus que Ratouma qui achèvera cette nuit. Et demain, nous sommes à même de donner l'ensemble des résultats partiaux, c'est-à-dire circonscription par circonscription. Et puis après, on décidera à quand on va publier la totalisation.
Et restez en ligne, nous tournons vers M. Silla. Silla, vous avez entendu les accusations de M. Camara contre vous, votre parti et vos militants.
Bon, vous me permettrez de dire bonsoir de nouveau à nos auditeurs et auditrices. Et ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est d'interpeller M. Camara en tant que citoyen, d'opter pour l'apaisement. Le discours de notre opposition, malheureusement, ne changera jamais. Peut-être même si on prenait M. Sidibé Diallo aujourd'hui comme président de l'institution CINI, qui est une institution constitutionnelle, qui est en charge d'organiser les élections, les autres membres de l'opposition ne se tairont jamais, ne vont jamais se taire. Donc leur discours de médisance, de dramatisation, de victimisation ne changera jamais. Nous sommes à une phase très très importante de la vie de notre nation.
Oui, monsieur Silla,
en tant que jeune politicien,
monsieur Silla, si vous permettez que je vous interrompe un tout petit peu, mais l'opposition d'hier, elle est au pouvoir aujourd'hui et vice versa. Est-ce que vous étiez de la même manière quand vous étiez encore à l'opposition?
Non, du tout. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous lançons cet appel d'apaisement. Par rapport aux opérations électorales, heureusement, nous avons aujourd'hui un membre de la CENI. Je pense qu'il sera en mesure de répondre aux questions techniques liées à la CENI. Par rapport à ces élections, nous avons envoyé des délégués à Moyenne-Guinée. Ces délégués n'ont pas été reçus. Ils ont été rejetés. Même l'eau pour boire, ils n'ont pas pu trouver. Et la Guinée est un pays reconnu par son hospitalité. Mais nous ne plaignons pas de ça. Ce sont de bonnes guerres politiques. À partir du moment où il n'y a pas eu de violence physique, il n'y a pas eu d'atteinte à leur intégrité physique, nous sommes satisfaits. Mais ils ont fait le travail dans d'innombrables difficultés. Ce qui reste clair, c'est que ces élections, il y a eu plus de 10 000 observateurs internationaux et nationaux. Malgré les anomalies que la CENI a engendrées dans le processus d'organisation de ces élections ont été transparentes, n'ont été entachées d'aucune fraude. S'il y a eu fraude, je l'ai suivi aujourd'hui, par exemple, dans la synergie des radios, il y a eu deux bureaux de vote fictifs dans le fief de l'UFDG à Ratoma, à Somponia. Il y avait un bureau de vote, M. Maxime est là, peut-être qu'il est au courant. Il y avait un bureau de vote Symphonia Gare 2 qui n'a jamais été listé par la CENI, par exemple. Et dans ce bureau de vote fictif, c'est l'UFDG qui avait 100% de voix, alors que les autres candidats n'avaient qu'une voix. Encore une fois, toutes les anomalies qui ont caractérisé ce processus n'ont favorisé aucun parti en compétition. Ça a été des anomalies générales qui ont touché toute l'étendue du territoire national. Mais ce qui m'étonne dans ce débat-là, on ne peut pas opter pour la démocratie, et le minimum de sacrifice qu'un prétendant au fauteuil présidentiel peut faire, c'est de reconnaître sa défaite dans les urnes. Mais lorsqu'on part à une élection aussi importante qu'une élection présidentielle et qu'on n'a pas le courage moral, l'honnêteté politique de reconnaître sa défaite, moi je me demande où va la Guinée. Je rebondis tout de suite sur une de vos questions. S'il y a une conséquence juridique du retrait de l'opposition, moi je me dis la seule conséquence juridique qu'il peut y avoir, c'est qu'ils ont renoncé involontairement à leur droit de porter plainte devant les institutions régaliennes de l'État en charge du contentieux électoral. C'est la seule conséquence, sinon le processus électoral est déjà consommé. Je pense que celui à qui le peuple de Guinée, dans son écrasante majorité, a donné sa voix, va jouir de ses voix-là et va présider au destiné de notre pays pendant les 5 prochaines années. Encore une fois, si nous optons pour la démocratie, il va falloir qu'on accepte le jeu entièrement. Autant on met la pression sur les partis au pouvoir, sur les dirigeants, sur les dirigeants pour qu'ils acceptent la transparence dans le jeu démocratique, autant l'opposition doit
vraiment avoir le courage de reconnaître sa défaite en Guinée, comme d'autres l'ont fait au Sénégal, au Mali, tout près. Je pense que ça, c'est une grandeur, c'est une dignité. Reconnaître sa défaite n'est vraiment pas une faiblesse. Et c'est un des éléments essentiels de la démocratie, si nous voulons vraiment la paix et l'apaisement. Donc nous sommes dans une logique d'apaisement telle que prônée par notre président candidat, certainement le futur vainqueur, parce que à cause de son bilan, le peuple de Guinée, à travers toutes ces ethnies, à travers toutes ces religions, à travers toutes ces régions, lui donneront certainement un deuxième mandat. Nous nous appelons à l'apaisement. Parce que ce deuxième mandat, même si nous l'aurons, s'il n'y a pas la paix en Guinée, nous ne pouvons pas bâtir la Guinée. Et ce que l'opposition ne doit pas surtout pas oublier, c'est que là où le professeur Alpha Condé laissera la Guinée, c'est là-bas un autre Guinéen prendra. Ce Guinéen peut prévenir de l'opposition. S'il trouve qu'il y a des routes partout, il aura d'autres défis à relever. Il va faire l'économie sur les routes. S'il trouve qu'il y a des barrages qui ont déjà électrifié la Guinée, il va orienter son domaine d'action, il va s'orienter vers d'autres domaines importants du développement, parce qu'il y a déjà des acquis. Encore une fois, nous sommes tous citoyens de ce pays. Battons-nous pour l'enracinement de la démocratie, qui est un processus très long, très douloureux, et qui doit être caractérisé par le don de soi, par le sacrifice au nom de l'intérêt supérieur de la nation.
Monsieur Silla.
La démocratie...
Oui, Monsieur Silla, revenons un tout petit peu sur la campagne électorale. On a dit que le RPG a utilisé des moyens gigantesques et il y a eu des appréhensions comme quoi des moyens de l'État ont été utilisés.
Vous savez, Monsieur Eric, nous sommes dans un pays qui est extrêmement difficile, où les hommes ne vivent que de mensonges, où les hommes ne vivent que de rumeurs. Et en Guinée, Dieu seul sait qu'il y a des officines qui savent créer ces gros mensonges et ces grosses rumeurs. Honnêtement, parlons des choses très, très objectives, très, très réalistes. Au cours de la campagne, avant la campagne, le chef de l'État a fait une visite à travers le pays. Il a profité de ces visites-là pour installer des antennes des MIFA, ce sont des organismes de microcrédit pour permettre l'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Et il a fait le déplacement avec une banque primaire de la place, Afilambank. Donc, à chaque fois que les fonds ont été déposés dans les caisses de la jeunesse ou des femmes, à travers cette banque-là qui est donnée à titre de microcrédit, les gens crient au scandale. Nous voulons vraiment sortir de ce jeu qui n'a vraiment pas de fin, qui ne permet nullement à construire la démocratie en Guinée. Parlons des choses essentielles, notamment les résultats, les contestations éventuelles, le retrait de l'opposition. Mais franchement, ces rumeurs-là, on en a trop entendu, et franchement, ce sont des rumeurs qui ne permettent pas de construire un débat solide. Donc, nous sommes 6 millions de Guinéens qui devraient voter. Qui a autant d'argent pour donner un franc guinéen à ces 6 millions de Guinéens-là? On va prendre l'argent là où? On va prendre l'argent là aussi, on prend l'argent de l'État, les moyens de l'État, c'est l'État qui va faire la faillite. Et nous, actuellement, nous avons repris des programmes de développement avec tous les partenaires extérieurs au développement.
Oui, recentrons le débat pour revenir sur le contentieux électoral et surtout comment sortir de la crise, parce qu'il y a une crise, il faut l'accepter avec ces contestations, etc. Avant de passer la parole à notre auditeur Abdoulaye Diallo, je voudrais revenir un tout petit peu sur Youssouf Camara. C'est une petite question, je vous demanderai d'être bref. Retenez la question, est-ce que vous allez vous confier à la justice et utiliser d'autres moyens si la justice ne vous donnait pas raison? Vous allez répondre à cette question après cette petite pause.
La Guinée dans Antenne Libre sur VOA Afrique.
Oui, monsieur.